Il est à présent l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Est-ce que tu es... j'ai perdu mon mot. Est-ce que tu es addict à l'écran, aux écrans numériques ?
Addict, je ne pense pas, mais c'est vrai que ça prend une part très grande dans nos vies aujourd'hui quand même.
Alors c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, puisque la bande dessinée s'est déjà emparée de la question du pouvoir numérique. En 2022, Philippe Squarzoni interpellait notre dépendance au numérique, où en 23, Audric Guédan et Alf Bob détaillaient dans Datamania le pillage de nos données personnelles. Depuis, l'IA envahit l'actualité, amplifiant ces phénomènes. Cette dépendance aux écrans était déjà en 2019 le thème de deux essais. D'abord, La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, et de celui de Bruno Patineau, La civilisation du poisson rouge. C'est ce dernier essai que s'est approprié Morgane Navarro. Sa mise en image appuie sur cette domination à travers l'accroissement du temps d'écran, de nos temps d'écran. Nous serons avec Morgane Navarro pour qu'il nous détaille la création de 9 secondes, La civilisation du poisson rouge. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez remarqué que ça fait plusieurs semaines que je détaille l'actualité d'Angoulême. Et il y en a encore une. Il y a un entretien dans Alternative économique entre Ève Charin et Benoît Peeters, qui est le président des États généraux de la bande dessinée. Benoît Peeters revient sur le dérapage de 9e Art Plus dans sa gestion du Festival d'Angoulême. Et c'est les révélations avec l'affaire Chloé qui a été donc présentée dans l'Humanité et qui a engagé auteur, autrice, éditeur, même collectivité dans une confrontation avec 9e Art Plus. Benoît Peeters parle de cette gestion autocratique, sans transparence financière, de la société qui gère le Festival d'Angoulême avec une sorte de délégation, c'est sa mission, depuis plus d'une vingtaine d'années. Il constate, par exemple, et il insiste là-dessus, 9e Art Plus n'a même pas de partenariat avec le Cité de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, la cité internationale qui crée des expositions, qui a des rencontres lors du festival. Elles ne sont même pas mentionnées sur le catalogue et le programme du festival. Et puis, toute cette question sur la précarité des auteurs et des autrices semble ignorée par 9e Art Plus et surtout par son directeur, Franck Bondou. C'est lui qui est vraiment sur la sellette. Alors, cette situation vis-à-vis des autrices, par exemple, elle a vraiment commencé et elle s'est cristallisée à partir de 2016, puisqu'il y avait une présélection pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême qui était composée d'une trentaine de noms. Il n'y avait pas une seule autrice parmi cet ensemble. Là, et on le comprend tout à fait, ça a créé une crispation importante chez les autrices, et les réactions de Franck Bondou sont absolument pas acceptables et rien n'a été trouvé pour que cette situation change. Il y a deux femmes qui ont été élues Grand Prix de la ville d'Angoulême, c'est Claire Bretéché, ça remonte à déjà quand même un très grand nombre d'années. Et puis il y a eu Florence Sestac également, et là aussi, c'est plus récent, mais c'est quand même très lointain. Donc cette relation entre Franck Mondou, directeur, président de 9e Art Plus, les auteurs, les autrices, les éditeurs et les collectivités territoriales n'ont absolument pas évolué, d'où le clash qu'il y a eu pour cette édition de 2026. Alors cet entretien est vraiment intéressant, d'une part parce que le journal lui-même est important, c'est une approche économique alternative, mais avec des questions de fond, des compétences, des argumentaires qu'il est souvent très réjouissant d'entendre. Et je rajouterai à cette présentation de l'article et de l'entretien d'Eve Charin et de Benoît Peeters sur son compte LinkedIn, Denis Bajram, qui est aussi membre des états généraux de la bande dessinée, présente la riposte de Franck Mondou, où il dit qu'il y a eu une assignation en justice de l'asso qui est en train de tenter de faire revivre le festival. Et donc, il ne tient même pas compte de cette réalité. Il est hors sol. Il n'a pas compris que la société avait évolué et que ce serait peut-être temps qu'il s'y mette un poil quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un collectif d'auteurs, d'autrices, d'éditeurs et d'éditrices de collectivités territoriales qui se retrouvent dès maintenant pour pouvoir mettre en place une édition 2027 qui soit beaucoup plus conforme, notamment à l'accueil du public, au respect des auteurs et des autrices, et à une gestion beaucoup plus transparente. Moi, pas beaucoup plus, parce qu'elle ne l'est pas. Donc, une gestion transparente de ce festival. C'est le moins que l'on puisse attendre. Excite 9e Art Plus ? Ben oui, ben c'est mort. La fille de Franck Mondou, Johanna Mondou, a exprimé « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Eh ben, t'as fait que t'as rien écouté de ce que pouvaient dire les auteurs et les autrices. Voilà. C'était un point important parce que, à suivre. Alors, je voudrais donc, comme à chaque fois, j'encadre la partie de l'entretien et de la présentation du livre avec son auteur, d'autres livres. Et donc, aujourd'hui, c'est un manga qui s'intitule « Ce vide au fond de moi ». C'est le tome 1. Alors, il n'est pas sorti récemment, mais je tenais quand même à soumettre le manga aussi à une lecture attentive, plus critique, parce que le manga peut être mis en parallèle de, par exemple, le rock, qui, dans les années 60, s'est multiplié avec une très grande rapidité. Et donc, il y a eu des grands groupes qui sont bien sûr sortis de cette décennie. Et on pouvait presque tout entendre. On avait vraiment de tout. Et cet exotisme que représentait le rock'n'roll par rapport à d'autres musiques de l'époque, a fait qu'il y a eu un engouement extrêmement important. Le manga, qui est arrivé dans les années 80, avec quelques prémices, mais principalement dans les années 80, notamment avec la publication d'Akira et puis de Dragon Ball Z. Il y a le même type d'exotisme qui fait qu'on a tout un pan des lecteurs qui sont très attirés et très demandeurs de cette littérature qui a d'autres d'autres repères, d'autres fonctionnements, un autre langage de la bande dessinée qui a des points communs avec celui de la bande dessinée européenne, franco-belge, pour résumer, et qui donc présente vraiment des différences que beaucoup de lecteurs aujourd'hui apprécient. Ce vide au fond de moi est signé Tomo Taketomi et Yori Kenzaki. Je l'ai bossé celle-là parce que vraiment. Et donc, c'est publié par les éditions Tonkam, qui est une filiale de Delcourt. Alors, c'est une collection Moonlight qui cherche à avoir une autre approche plus intimiste, et on sort des grandes bagarres, des guerres intestines, des combats sans fin, ce rapport avec des femmes qui ont souvent des poitrines très généreuses, des guerrières au gros sein qui envahissent les images. Et donc là, Moonlight nous s'écarte volontairement de ce type de récit et propose un récit beaucoup plus intimiste. Le récit. Un jour d'été, une jeune lycéenne du nom de Ruka tue la personne qui la harcelait. L'envie de mourir à la gorge, elle décide de prendre la fuite et entraîne Chihiro avec elle, mais ils sont vite rattrapés par la police. Ruka décide de laisser Chihiro et de mettre fin à ses jours. 13 ans plus tard, devenu adulte, Chihiro n'a jamais oublié son ami Ruka. Il mène une vie triste et monotone jusqu'au jour où la réplique vivante de Ruka apparaît devant lui. Une lycéenne qui porte le même nom, Ruka. Sous le charme, Chihiro ne se doute à aucun moment de son terrible secret. Commence alors un été qu'il n'est pas prêt d'oublier. Oh là 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 là. Alors, ça part bien, ça part bien. Il y a donc dans ce manga, c'est vraiment l'axe principal où donc Chihiro est un jeune adulte qui va avoir une grande difficulté à pouvoir ne serait-ce qu'imaginer d'être avec une autre femme, une autre jeune femme que celle dont il était tombé amoureux, la première Ruka. Donc, les deux auteurs vont mettre en place cette relation avec cette autre Ruka qui a des ressemblances. Et j'avoue que c'est quand même un peu alambiqué. C'est une des caractéristiques du manga. C'est un récit qui est plus linéaire, qui n'a pas la même approche de la narration et qui fait que, eh bien, on va avoir un récit qui va se couler un peu comme un fleuve plus ou moins tranquille. Et on n'a pas forcément ces doubles récits croisés ou ces mises en perspective, ces différents points de vue que l'on peut avoir sur un même récit. Il y en a qui sont comme ça, mais en tout cas pas celui-là. Et donc, il va y avoir des moments un peu étonnants parce que cette nouvelle Ruka est une jeune femme qui est très très seule. Sa mère est morte en couche, son père a du mal à faire face à cette jeune femme et elle se sent terriblement seule. Et pour combler cette solitude, elle va avoir recours à des rencontres et pour pouvoir être serrée par des hommes dans ses bras. Alors, on va le chercher loin. Alors, c'est assez étonnant parce que là, on touche aussi la différence culturelle où un premier livre qui était paru dans les débuts du manga, qui s'appelait Diamonds, où les auteurs présentaient et donnaient des conseils aux jeunes étudiantes qui se prostituaient avec des quinquagénaires pour que ça se passe le mieux possible et qu'ils puissent ainsi payer leurs études. Alors je vous cache pas, quand c'est les éditions Milan qui éditent ça et qui font qu'après vous allez voir déferler des mangas, j'étais un petit peu inquiet à l'époque. Et bon, il y a eu des choses très bonnes. Donc là, il y a un passage où carrément une amie de Ruka lui demande « Mais comment on fait pour se prostituer ?» Et c'est une lycéenne Voilà, donc c'est ça, les différences d'approche, de point de vue, de façon de traiter les différents sujets, notamment la précarité des étudiants et des étudiantes. C'est abordé dans ce vide au fond de moi. Côté dessin, le dessinateur Tomo Taketomi a un trait plutôt tendu qui nous change des habituels dessins des mangas très lissés, une façon d'apporter plusieurs traits pour faire des traits de contour qui donnent un côté un peu plus tendu, plus chaleureux, plus intime également. Ma réserve, c'est cet envahissement des bulles. On a l'impression que là aussi, il y a une différence d'approche où ça ne dérange pas un manga de dessiner juste les yeux d'un personnage dans une case qui est entièrement occupée par des bulles, qui va nous raconter un état d'âme, mais qui fait que le dessin devient uniquement illustratif. Et c'est quand même pas tout à fait le fonctionnement de la bande dessinée. Ce rapport texte-image est perturbé vraiment par cet envahissement des bulles. Et il n'y a pas que des bulles, puisque très souvent dans le manga, le texte est écrit à même la case. Donc je voulais en parler, qu'on ait peut-être un œil un peu plus critique vis-à-vis de nos lectures de manga pour qu'on vérifie bien quand même quel est le travail fait à la fois par les auteurs et les éditeurs pour que on soit vraiment aussi dans cette lecture des récits dessinés des plus satisfaisantes. Musique. L'addiction aux écrans était en 2019 au centre de deux essais, La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget et La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Le développement sans contrôle de l'IA a encore plus accentué cette dépendance. Morgane Navarro met en image l'essai de Patino. La bande dessinée se montre particulièrement efficace pour représenter nos usages des écrans. Sa capacité à faire sens de toute situation fait merveille. Ainsi, la mise en scène des expériences sur le comportement réalisé dans les années 30 révèle la force de cette adaptation. Le dessin de Morgane Navarro est incisif, direct, posant légèrement le contexte de la scène, ne gardant que les éléments signifiants. Son trait reste chargé d'ironie et aussi de bienveillance à l'égard de cette famille que nous accompagnons dans leur dépendance aux écrans. L'ironie est aussi présente dans la représentation de Benji Fogg en Dark Vador, le patron du Persuasive Technology Lab, le labo du design comportemental, concepteur des mécanismes de l'addiction numérique. Cette énergie graphique qui rappelle le dessin de presse rend immédiatement accessible ce qui est à l'œuvre derrière les dépendances aux écrans de Bruno Patino et sa famille. La bande dessinée la rend plus proche, nous ressentons complicité et empathie pour elle. D'autant plus que les solutions sont proposées par les adolescents eux-mêmes et nous sommes avec Morgane Navarro pour qu'il nous expose son adaptation. Bonjour Morgane Navarro.
Bonjour, merci de m'inviter.
Alors, comment vous êtes-vous plongé dans ce récit de Bruno Patino et comment vous l'êtes-vous approprié?
Alors, en fait, c'est mon éditeur déjà qui m'a branché là-dessus, c'est-à-dire qui m'a demandé si ça m'intéressait d'adapter ce livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, enfin deux livres qu'il a aussi fait à la suite qui s'appellent Tempête dans le bocal, qui est un peu une mise à jour du premier, enfin un développement. Et en fait, j'avais ce livre dans ma bibliothèque, le premier, et qui m'avait plu déjà, qui m'avait vraiment éclairé sur plein de choses. J'avais trouvé ça, j'avais déjà eu l'impression que c'était un livre que j'avais envie de faire lire à mon entourage, vraiment qui m'a semblé tellement... On a tellement le nez dedans dans tous ces trucs qu'on se rend pas bien compte en fait de tous les systèmes qui sont en place derrière cette économie qu'on appelle l'économie de l'attention, que ça me semble important de ça éclaire beaucoup de choses, hein, sur nos comportements. Et comme chacun, je suis complètement addict à mon petit téléphone, aux réseaux sociaux, etc. Et donc, ça permet quand même de comprendre pourquoi, et ça me semble intéressant. Et donc, du coup, en fait, j'ai aussi vu dans ce livre beaucoup de... Il y a une écriture très imagée. Et donc, en fait, quand on m'a proposé ça, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait en faire quelque chose en bande dessinée, quoi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Pour un essai, c'est souvent un peu compliqué des fois de mettre un essai en bande dessinée, c'est pas un scénario. Et donc moi, il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de petites anecdotes, etc., qui sont très qu'on voit comme des petits films. Donc ça m'a semblé ça m'a semblé adaptable en bande dessinée, quoi. Et donc j'ai fait une petite histoire pour permettre de lier tout ça avec une famille qui est un espèce d'avatar, enfin avec le papa qui est un peu un avatar de Bruno Patino, qui n'est pas Bruno Patino lui-même. Hein, je n'ai pas demandé comment ça se passait chez lui. Hein, je me suis permis de faire un personnage qui s'appelle Bruno et voilà, auquel tout le monde peut s'identifier. Voilà.
Alors, Morgane Navarro, comment procédez-vous pour adapter l'essai? Comment ça se passe?
Eh ben alors, c'est un gros travail de synthèse en fait. J'ai lu, relu, j'ai pris des notes pendant que je lisais. J'ai essayé d'être, en fait, j'ai pris le parti d'être de suivre le bouquin un peu dans l'ordre, hein, en me servant c'est des détails, mais il y avait beaucoup d'informations de mise à jour dans le deuxième que j'ai intégré quand je pouvais dans le premier. Il y avait cette question de l'obsolescence des informations auxquelles j'ai dû remédier en cherchant par exemple des nouvelles données, les données les plus récentes, les chiffres, etc. Mais en gros, j'ai suivi le fil du bouquin j'ai essayé de faire quelque chose de très clair, quoi. C'est-à-dire que alors, concrètement, je lis le bouquin, je prends des notes, et déjà pendant que je le lis, j'imagine la mise en scène de ce que je pourrais faire. Et ensuite, moi, je suis très dans l'écriture. J'écris, je dessine en fait. Une fois que j'ai fait mon travail de prise de notes, etc., de relever des phrases les plus, les contenus que je voulais mettre en avant. Disons synthétiser des chapitres, quoi, parce que évidemment il y a beaucoup de contenu, donc il faut arriver pour pas que ce soit étouffant dans une bande dessinée d'en mettre une partie de côté pour garder l'essentiel et puis de se servir du dessin pour dire aussi d'autres choses. Et donc après, en fait, j'ai écrit en dessinant, quoi. Je fais le travail beaucoup comme ça, c'est-à-dire que c'est au cas par cas, je sais où je vais, je sais ce que je vais dire dans le chapitre, et puis ensuite je laisse aussi le dessin me guider. Voilà, en gros.
Morgane Navarro, votre dessin est différent de celui qu'on peut voir dans d'autres livres. Comment cette évolution, vous l'avez pensée?
En fait, j'y réfléchis pas vraiment, moi, à ça. C'est-à-dire que j'aime bien, pour chaque sujet, parce que j'ai beaucoup fait ça dans le passé aussi, hein, si vous regardez, en fait, je change souvent d'outils d'approche graphique, quoi. Donc en fait, ça vient tout seul, en fait. Moi, je me dis juste, par exemple, là, je voulais que ce soit... Le principal pour moi dans cette bande dessinée, c'est que ce soit lisible par tous, à peu près, sans pour autant enlever trop de complexité. Hein. J'ai gardé quand même des trucs. Mais j'ai fait en sorte qu'un adolescent ou même un jeune ado puisse le lire. Et puis au niveau graphique, c'était le truc du moment. Ça m'a vu tout seul, si vous voulez. Et je fais souvent ça. Hein. Là, j'avais besoin de quelque chose d'être très aéré. Je ne sais pas par quoi j'étais inspiré à ce moment-là, mais voilà. C'est vrai que je ne suis pas un dessinateur qui s'enferme dans un... Enfin, qui s'enferme, ce n'est pas une critique. Mais moi, j'aime bien me faire des... faire une espèce de récréation par rapport au bouquin d'avant. Je pense que c'était pas un dessin où je voulais pas un dessin où on s'attarde sur le dessin, justement. Je voulais un dessin que ce soit juste généreux et assez ludique, j'aime pas ce mot, mais que ce soit amusant, quoi. Des dessins un peu rigolos, je sais pas comment dire.
Alors justement, Morgane Navarro, il y a un dessin qui rappelle par certains points le dessin de presse. Cette synthèse, ce côté direct pour exprimer les choses. C'est un choix aussi d'aller vers cette tension et cette efficacité.
Oui, c'est vrai. C'est un peu malgré moi. Je sais pas vraiment d'où je tire ça. C'est vrai que je suis pas vraiment dessinateur de presse. Hein. Je dessine dans Le Point, mais c'est des strips, c'est des quatre cases comme ça. Mais c'est vrai que j'ai ce truc un peu. Disons que je me dis pas que je fais du dessin de presse, hein, quand je fais ça. J'ai même des fois des influences de trucs japonais ou je sais pas, ou les Simpsons ou quelque chose de, j'essaie de faire quelque chose d'assez léger, très expressif, et c'est comme ça que ça me vient, et je me vois pas passer trop de temps sur un dessin dans une bande dessinée comme ça, parce qu'on n'est pas en train de vouloir emporter le lecteur ça pourrait, hein, mais en tout cas moi là je choisis pas de qu'on s'attarde sur un décor, sur quelque chose. C'est juste le personnage qui essaie d'aller dans l'efficacité, comme vous dites, à avoir la bonne expression, un mouvement, le mouvement, que ce soit. Et puis moi, c'est vraiment mon but dans la bande dessinée. Enfin, je trouve que l'art de la bande dessinée, c'est pas que le dessin, c'est vraiment aussi l'art de la séquence et comment ça se lit, quoi. Comment on passe d'une case à l'autre. Faut pas que ce soit, faut pas que l'œil s'arrête. Faut que ce soit, enfin, pour moi, dans, en tout cas dans ce genre d'histoire, parce qu'il y a quand même en plus beaucoup de texte, donc j'ai plus que ce soit agréable à lire et clair, quoi. Voilà.
Morgane Navarro, il y a dans ces 9 secondes, cette civilisation du poisson rouge, différents apports de connaissances, de savoir. Il y a c'est pas des graphiques, si, des sortes de pages synthétiques qui donnent les données. Ouais. Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière à gérer cet ensemble? Et est-ce que vous avez une vision globale de votre récit avant vraiment de le mettre en forme définitivement?
Ah oui, ben bon, déjà ça repose sur le bouquin, donc le livre il est bien construit comme ça, avec vraiment une chronologie, enfin comment dire, les chapitres s'enchaînent, assez logique. Donc j'ai respecté cet ordre. Donc déjà ça c'était quelque chose qui m'enlevait au niveau scénaristique, qui où je savais où j'allais, quoi. Je savais que j'allais d'un point A à un point B. Donc ça c'était pas le plus gros problème. La question qui s'est posée, c'est comment mettre ça en, comment scénariser tout ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette famille avec ce personnage qui est un journaliste, qui doit à la fin de sa journée, produire un papier sur ce sujet de l'économie de l'attention. Et donc c'est lui qui un peu nous parle, qui parle au lecteur et qui nous raconte ses recherches, quoi, en fait. Et ensuite on a ces scènes du quotidien, de lui qui accroît son téléphone, sa fille qui est en train de faire un carton sur malgré elle sur les réseaux sociaux, la petite qui est en crise de qui tape une crise parce qu'on lui a privé, elle est privée de téléphone, et sa femme qui veut devenir influenceuse plus ou moins, et voilà. Donc moi dans ma tâche c'était de créer une tension pour que on ait envie de les suivre là dedans et ensuite les données, toutes ces données là non, c'était disons que ce dont vous parlez là, les données qu'on met à chaque fin de chapitre, quasiment, ça c'est quelque chose qu'on a, voilà, comme j'ai fait des chapitres, ben à chaque fois on a des données qu'on peut lire indépendamment du récit. Et puis la somme d'informations là, ben j'ai l'impression, enfin je sais pas, ça c'est à vous de me dire si ça s'intègre bien dans le récit, mais moi il me semble que ça ça se lit sans, comment dire, qu'on n'est pas arrêté, quoi, dans la lecture par rapport à ces données.
Voilà, je confirme tout à fait, et c'est même important parce que ces données nous permettent une mise en perspective, et c'est vraiment aussi des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Ouais. Morgane Navarro, je vous propose une pause musicale avec votre deuxième choix de Nemo Nemo, et puis on se retrouve donc dans quelques minutes. À tout de suite.
Très bien, merci.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Morgane Navarro à l'occasion de la parution de toute récente de son adaptation du livre de Bruno Patino, 9 secondes, la civilisation du poisson rouge. 9 secondes, c'est une partie du titre qui est propre à cette adaptation et c'est publié par les éditions Dupuis. Morgane Navarro, il y a donc l'actualité qui est vraiment marquée par le développement sans contrôle de l'IA, ça bouleverse complètement l'approche. Est-ce qu'il y a eu, par rapport à ça, une difficulté particulière comment elle s'intègre dans cette partie, dans cette civilisation du poisson rouge ?
La question de l'IA, ouais, on, effectivement, et puis en plus, pendant que je réalisais cette bande dessinée, ça va tellement vite que la question s'est posée, est-ce qu'on devait insister là-dessus ou pas ? On en parle quand même dedans. En fait, c'est corrélé, mais c'est parce que l'IA sert à fabriquer ces algorithmes qui nous gouvernent. Mais voilà, disons que je pense que l'IA permet d'aller encore plus loin dans cette économie de l'attention, hein. C'est-à-dire parce que l'économie de l'attention, ça suppose un ciblage personnalisé et des outils pour pouvoir nous faire rester le plus longtemps possible sur nos écrans, nous proposer des contenus qui vont nous faire nous rendre addicts, quoi. Et l'IA peut permettre ça, hein. Mais voilà, c'est juste, je pense, un outil qui est encore plus puissant que ce qu'on avait avant, quoi. Voilà.
Quels ont été vos liens, Morgane Navarro, avec Bruno Patino ? Est-ce qu'il a lu le livre, votre adaptation avant publication ou pas ?
Bah, je lui faisais lire chaque partie. Il a écrit quelques contenus. Il est très présent dans l'adaptation. Il supervisait. Il me guidait dans l'écriture de la BD. Ouais.
Alors, il y a bien sûr la présentation en profondeur de ces addictions aux écrans, mais il y a aussi une ouverture vers la fin qui arrive notamment avec les ados. Une ado, celle de la famille que vous avez mise en scène. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que c'est une conviction ? Comment ça se passe, Morgane Navarro ?
Eh bien, disons que... En fait, déjà dans mon entourage, parce qu'on est souvent à se dire, ah là là, les enfants, les ados, ils sont nés avec, donc on a l'impression qu'ils sont encore plus victimes que nous, qu'ils peuvent pas s'en passer, etc. Mais bon, moi dans mon entourage, j'ai des enfants qui sont grands, ils ont ce réflexe, ils ont le téléphone et ils sont sûrement quelque part, j'espère le moins possible, mais addicts à ça. Mais j'ai l'impression que aussi, c'est eux qui... en tout cas, de ce que je connais, hein, de mon entourage, j'ai l'impression qu'ils ont aussi une critique, ils sont aussi très critiques là-dessus. Ils sont pas dupes tout à fait. Et parfois, j'ai l'impression que les adultes sont plus, désemparés par rapport à leur propre consommation. Que le son. Et puis, ça me semblait un peu. J'ai trouvé ça marrant de faire que ce soit une enfant qui éclaire ses parents sur les dangers de ce truc-là, comme ça peut l'être avec, je sais pas moi, un enfant qui découvre, n'importe quelle sorte d'écologie, par exemple, un enfant qui se met à avoir des convictions écologiques et qui va en informer ses parents qui, eux, n'ont jamais été préoccupés par ça, par exemple. Je sais pas, je dis ça voilà, je trouve que c'est assez contemporain, que ça m'a semblé presque réaliste. Voilà.
Morgane Navarro, le principe de l'adaptation d'un essai, d'un roman en bande dessinée, finalement, est-ce qu'il crée une œuvre différente ? Comment situez-vous ce livre qui vient aussi de Bruno Patino ?
J'ai pas bien compris. Vous voulez dire quelle est la spécificité de le
voilà,
de bande dessinée?
Voilà, parce que le principe de l'adaptation, c'est pas toujours facile de créer une œuvre nouvelle. Et là, finalement, comme c'est un nouvel exemple de ce qui est possible dans cette mise en œuvre dessinée d'un récit et ici d'un essai.
Oui, c'est vrai que. C'est pas quelque chose. J'avais jamais fait ça, une adaptation comme ça. Et donc j'ai été voir un peu ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai essayé de faire quelque chose. Comment dire, comme j'avais ce que j'aurais envie de lire. Parce que c'est pas quelque chose. C'est pas un genre qui me. C'est pas mon genre préféré. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est difficile de faire quelque chose de bien avec ça. Souvent quand j'ouvre des bandes dessinées documentaires, ça m'accroche moins. Alors putain, je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est à dire que je suis pas un amateur de ce genre de trucs, donc j'ai voulu moi faire quelque chose que j'aimerais lire dans le style. Et qui puisse, je sais pas comment vous répondre à ça en fait. J'ai voulu faire, je suis resté assez fidèle au contenu du livre hein, quand même. Hein. J'ai pas voulu faire non plus. C'est personnel, mais c'est très. Je sers les propos de Bruno Patino avec mon humour quoi. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Je suis pas prétentieux là-dedans du tout. Hein. Voilà.
Morgane Navarro, la bande dessinée, quand on regarde l'ensemble de votre œuvre, bon, il y a un personnage d'ourson bleu, Teddy Beat, dont on a les frasques sexuelles, on a Flipper le flippé, Ma vie de réac. La bande dessinée est une sorte d'espace de jeu. C'est une volonté de vraiment. Que ça reste.
Ah bah, il faut s'amuser, ouais. Oui, c'est ça, en fait, exactement. C'est ce que j'ai essayé de faire encore avec cette bande dessinée. C'est-à-dire, moi, je me suis vraiment amusé à faire ça. Hein. C'est pas. Je parle du genre documentaire qui. Je me suis dit, mince, il faut pas que ce soit barbant, quoi. Donc, j'ai voulu jouer avec toutes les. Je sais pas, n'importe quelle situation, elle peut être racontée de manière différente et. Et moi, effectivement, des fois, je m'en rends même pas compte. Hein. C'est-à-dire que j'y mène mon humour, j'y mets un petit peu mon regard avec ma façon de dessiner, ma tendresse pour les personnages, etc. Donc, j'y amène un peu de vie, quoi. C'est ce que j'essaie de faire, en fait. Je pense que j'ai ce savoir-faire de faire de la bande dessinée que j'espère assez qualitative et voilà, c'est pas là j'ai pas c'est pas une révolution comment dire j'essaie de faire un bon bouquin en tant qu'auteur et en m'amusant effectivement comme mais bon voilà c'est pas le même travail que quand je fais Teddy Beat où Teddy Beat c'est complètement ma folie ou Flipper le flippé, c'est ma folie propre que je peux étaler comme ça complètement. Là, c'est un peu plus modeste. Voilà.
Quel dessinateur êtes-vous, Morgane Navarro ? Comment ça se passe sur votre table à dessin ? C'est à l'énergie, il y a du repentir, il y a des retours en arrière, des hésitations, des doutes.
Alors. Je ne peux pas tout dévoiler. Hein, mais
non, j'en demande pas tant.
Je suis comme tous les artistes, entre guillemets, assez inquiet du résultat, de ce que ça va. Est-ce qu'on fait bien les choses, etc. Mais Mais bon, ben, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop pourri, quoi.
Non, mais vous y arrivez bien.
J'adore le dessin, j'adore dessiner déjà, donc c'est une bonne chose. Ensuite, dans ce genre de bande dessinée, c'est pas un tableau. Je fais pas mes bandes dessinées comme si je faisais des œuvres à regarder pendant 2 heures. Je fais vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un art de la narration, etc. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir des dessins qui soient agréables à regarder. Moi, derrière ma table des dessins, ben, je souffre beaucoup en dessinant parce que c'est quelque chose. Alors, je peux refaire des dessins plusieurs fois, etc. Même on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être, je sais pas, une position d'un personnage qui a l'air, quand on la lit après dans la bande dessinée à la fin, on se dit oui, il a dessiné ça comme il fait pipi, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. C'est des parfois, pour avoir le dessin juste qui a pas l'air comme ça en 3 traits. Ben, il m'a fallu plusieurs essais. Des fois je peux bloquer sur un truc parce qu'il faut que ce soit, qu'il y ait une certaine vitalité, qu'il y ait un certain dynamisme, et justement qu'on n'ait pas l'impression que le dessinateur a galéré pour le faire, quoi. Donc il y a tout un travail derrière, qui est un travail que je fais depuis 30 ans. Donc voilà, c'est juste ça, hein. C'est beaucoup de travail. Et d'autant plus pour faire des dessins minimalistes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. On dirait qu'il s'est pas emmerdé, mais on pourrait se dire ça. Mais en fait, c'est parfois justement faire un dessin en peu de traits, ça demande c'est un travail de funambule, quoi. C'est fragile, quoi. Voilà ce que je veux dire.
Merci beaucoup, Morgane Navarro. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc, 9 secondes, la civilisation du poisson rouge. Donc, avec Bruno Patino, c'est Patino. Adapté. Ouais. C'est adapté de son livre, La civilisation du poisson rouge. C'est publié par les éditions Dupuis. Les 46 pages de ce livre sont au prix de 20 euros et il a été...
Non, mais pas 46 pages.
146. Moi, j'ai vu 146. 146 pages. J'ai peut-être pas assez insisté sur le 100. Donc, c'est vraiment 146 pages. Parce qu'en 46 pages, ce serait impossible. Donc, 146 pages, on a vraiment la possibilité de s'immerger. Voilà. Et donc c'est 20 euros.
Et c'est... On est accro à nos téléphones.
C'est ça. Et c'est imprimé en Belgique. Très bonne continuation à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Dis-moi que je t'ai manqué. Manqué de pas grand-chose. Je te dirai où j'ai dérivé. Quand j'aurai écrit ma gnose, je suis satire à la rive qu'on m'apporte le masque et la bouteille. Je voulais m'enivrer à l'abîme, mais je voulais le boire à la rose. Puis de retour sur la plage, vaincu et hagard, ne plus entendre, ne plus voir. Comme la vague qui se retire, t'es sûr que tu l'as vu? La vague qui se retire, t'es sûr que tu l'as vu? Le voilà ton prophète, vrai fou et faux poète. Sous la voile Nurnar, Nurdichter, je te dis à plus tard dans les terres. Je voulais venir libre et partir heureux, arriver ivre aux pales des pleureuses. Rire dans le feu, insulter leur mère, depuis le cœur de la dame de fer. Et disparaître en laissant derrière un peu de brouillard, un peu de brume. Rien qu'un peu d'écume, comme la vague qui se retire, t'es sûr que tu l'as vu? La vague qui se retire, t'es sûr que tu l'as vu? Quand je ressemblerai à ce que je vois dans le miroir, tu vas voir ce que tu vas voir. Libéré de mon maître sauvage, sous le masque du visage, je vais laver l'empreinte d'un aide, toutes ces mains qui m'ont taillé. Dispersé dans la chaîne abrupte, abrupte des années. Alors si tu rêves de voyage au pays arrière, alors viens voir boire la part de frontière. Perdu et hagard comme Moïse au bord de l'eau, un millier de regards portés sur son dos. Qui qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer quand je lèverai les mains en l'air. Enfin il faut être tordu pour vouloir voir s'ouvrir la mer. La mer, la mer, tu vois ce que je veux dire. Pelé, pelé, une orange sanguine. Néron qui contemple ses origines.
Je voudrais terminer cette émission, comme à chaque fois, avec un focus sur un livre particulièrement important, en tout cas que je considère comme tel. Je voudrais terminer avec Karl. Karl, c'est le titre de ce livre, mais c'est aussi le nom d'un des personnages principaux, celui d'un robot. Le récit est de Cyril Bonin, un auteur de bande dessinée formé aux Beaux-Arts et puis aux Arts décoratifs de Strasbourg. Il fait de la bande dessinée depuis la fin des années 90, d'abord chez Casterman, puis chez Depuis, et là c'est son deuxième roman graphique aux éditions Sarbacane. Le récit. La voiture de Charles Brooks, riche banquier fantasque qui se rendait à son travail depuis sa propriété isolée dans les bois, percute violemment un sapin, il meurt sur le coup. Sa fille Magda, qui ne voyait plus son père depuis près de 10 ans, hérite de la demeure où il vivait. Alors qu'il ouvre une à une toutes les pièces de la maison, Magda découvre glissé dans une housse un robot bleu acier mis en veille. À peine remise de sa surprise, voilà qu'elle entend sonner à la porte. Lars Olsen, un expert cybernétique, indique à Magda qu'il mène une enquête indépendante. La Clone Bank, où travaillait Charles Brooks, envisage de poursuivre en justice la Randall Company, la société qui a mis au point Karl, l'androïde, au service de son père. Or, c'est Karl qui conduisait le véhicule lors de l'accident. Que va découvrir Lars Olsen en rallumant l'androïde et en récupérant la boîte noire? Et s'il s'avère que Karl est conscient de ses actes, est-il dans ce cas coupable, comme le serait un humain, du décès de Charles Brooks? Lorsqu'on feuillette le livre de Cyril Bonin, on retrouve des ambiances dans de ses livres précédents. Par exemple, La belle image, Amorostasia, Fogg, ou plus récemment, Les dames de Kimoto. Palette restreinte, un trait précis, tendu, qui est plutôt donc tourné vers le réalisme, mais qui n'est en rien enfermé par ce réalisme. L'ASF en bande dessinée, très souvent, s'est accompagnée d'une représentation plutôt tournée vers les aspects métalliques, techniques, high-tech, où l'image devenait rapidement spectaculaire. Avec Karl, Cyril Bonin a vraiment pris le parti de mettre Karl dans un environnement qui n'est pas celui d'une SF futuriste. C'est au contraire celui d'une vie dans une maison isolée en pleine campagne avec quelques incursions dans la ville. Il y a une modernité qui est exprimée dans Karl qui est visible sur quelques images avec des drones, des sortes de machines volantes qui surveillent les espaces urbains. Et une fois qu'on est en dehors de la ville, ils disparaissent complètement. Une des contraintes, et en tout cas un des défis que peut représenter l'écriture d'un récit comme Karl, c'est d'arriver à faire du personnage d'un robot un personnage conscient, un personnage qui va avoir une épaisseur, une profondeur, donc avec un langage qui aura donc cette ampleur parce que il y a un choix des mots qui n'est pas simplement une façon de répondre de façon un peu stéréotypée à une situation qu'il a déjà emmagasinée dans sa base de données. Il y a donc un travail de conception qui est nécessaire pour que ce personnage essentiel, et tout le récit tourne autour de lui, ait cette présence et qu'il ne soit pas simplement une présence future. La grande réussite de Cyril Bonin, c'est justement d'avoir fait un robot qui ne cherche pas à imiter de façon anthropomorphe, à d'imiter l'humain, qui va avoir des proportions identiques, mais qui est un être métallique avec une couleur bleue. Et puis, son visage, et c'est une des grandes trouvailles, a simplement, donc sur cette face métallique, deux petits ronds qui représentent les yeux à travers les trous à travers lesquels eh bien, Karl peut voir ce qui l'entoure, et puis un petit voyant qui permet de savoir s'il est en veille ou non. La force de l'auteur, c'est d'avoir réussi à ce que ces deux petits points blancs semblent chargés d'intensité, semblent chargés d'intériorité, et qu'ils ne regardent pas simplement à travers deux trous anodins. C'est vraiment un regard, mais qui permet donc à Karl d'être vraiment là, dans la situation, et il va évoquer cette conscience que Lars Olsen, dans le récit, cherche à mettre en évidence. Le dessin de Cyril Bonin est un dessin qui a une dimension narrative que l'auteur a pu éprouver. Il est d'une grande efficacité, il est précis, la gestuelle est au plus près des situations, la capacité de l'auteur à créer différents regards, différents visages avec des morphologies différentes est aussi une qualité qui n'est pas toujours à l'œuvre dans les différentes bandes dessinées. Et donc, on a vraiment une mise en scène de ce récit où on est tout le temps avec Karl, avec la fille de Charles Brooks, Magda. On va être au plus près d'eux tout au long de cette histoire. Il y a aussi un autre point que le dessin va magnifiquement mettre en œuvre, c'est cette différence entre la nature qui va entourer la maison dans laquelle Karl et Magda vont vivre, et puis cette dimension urbaine et où Karl va être un des personnages de ce futur qui existe. Il y a une palette restreinte, une façon de traiter la lumière qui est audacieuse et qui fait que constamment la mise en couleur anime ces surfaces avec un rajout de traits, de petits traits. Ce ne sont pas vraiment des hachures, mais ça donne de la matière, ça modifie la lumière. C'est souligné parfois par une couleur légèrement plus foncée. Mais c'est surtout aussi tracé à plusieurs reprises avec une sorte de crayon gras qui donne une épaisseur, mais qui laisse des jours dans ce trait tracé, et ces traits tracés les uns à côté des autres. Tout de suite, dans la case, l'image est animée, la couleur est animée, et on a vraiment une vie qui est là, présente, puissante, dans chacune de ces doubles pages. Des scènes muettes vont alterner avec des scènes où le texte sera plus important, ce qui est tout à fait normal, par exemple, quand vous avez une scène de procès, et c'est parfaitement géré là aussi, et on a vraiment un rythme ainsi qui se compose dans le récit entre ces passages de scènes plus intimistes dans la nature, dans la maison, et d'autres collectives en société avec la ville et notamment le tribunal. La lecture peut se déployer sur plus de 100 pages, 112 pages exactement, et on a tout le savoir-faire, tout la maîtrise d'œuvre de Cyril Bonnin à l'œuvre dans ce récit. Et il a vraiment réussi à montrer qu'on peut traiter de ce thème de la robotique, de l'IA, parce que c'est aussi ça qui est derrière, mais avec cet ancrage dans notre réalité et qui fait que c'est beaucoup plus humain. Carl, cette très grande réussite de Cyril Bonnin est publiée par les éditions Sarbacane. Les 112 pages de ce récit sont au prix de 22 euros. C'est un grand format. Il a été imprimé en France. Merci Fabien pour cette technique. Et à la semaine prochaine avec un autre invité. J'ai pas réussi à me retenir. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.